Prions, en ouvrant ta parole, être de ceux dont le cœur est ouvert et qui savent à qui ils s'adressent. Nous savons que nous n'avons pas besoin d'assiéger le trône de la grâce, comme on l'entend souvent dans les prières, car le trône de la grâce est ouvert. Nous n'avons pas besoin de l'assiéger. Il a été ouvert. Le voile a été déchiré. Et nous pouvons entrer grâce à la chair de Jésus qui a été laissée ouverte. L'ouverture a été faite. À travers ce voile qui était sa chair. Et maintenant, nous pouvons être reçus dans la maison du Père et reçus comme Jésus lui-même. Et donne-nous de le croire. Et que nous apprenions à considérer que notre vie n'est pas celle qui est la nôtre, que nous voyons, dont nous constatons tous les jours la faiblesse, mais que c'est celle de Jésus. Et que nous apprenions à vivre dans la foi, en notre vie nouvelle, en celle de Jésus. Que nous n'attendions pas d'être dans le ciel pour dire que maintenant nous avons la vie éternelle, mais que nous vivions de cette vie éternelle, qui est celle de Jésus, déjà ici-bas. Et qu'au lieu d'avoir toujours une mauvaise conscience, nous en ayons fini avec nous-mêmes, ou à pleurer dans notre cimetière, mais que nous allions de l'avant, avec joie, avec paix, sachant que tout est devant nous, pour ta seule gloire, et pour un renouveau de notre témoignage. En Jésus, amen. Eh bien, toujours dans notre thème fiancé au Christ, nous allons lire d'abord quelques passages que j'ai déjà cités, Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, et nous avons souligné que, quand nous lisons l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y a une apparition divine, ce n'est pas le Père éternel qui a été vu, mais le Fils unique du Père. Parce que c'est par son Fils que Dieu se révèle. Comme on l'a souligné, c'est par lui qu'il a manifesté toute sa puissance dans la création. Qui est l'auteur de la création? C'est le Seigneur. Le Fils unique du Père avant son incarnation. Dieu a manifesté la puissance de son Fils dans toutes ses œuvres que nous contemplons aujourd'hui. Donc, notre fiancé, comme nous allons le préciser, c'est le Créateur. De sorte que nous devrions aussi être réconciliés avec toute chose, dans la création. Il n'y a aucune chose que Dieu a créée qui soit mauvaise. Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Je vais vous donner seulement les réponses de l'Écriture. Dans l'Épître à Timothée, l'enfant dans la foi de l'apôtre, première épître de Paul à Timothée, nous lisons au chapitre 4e. L'Esprit dit expressément, et c'est le vrai Esprit, hein, le Saint-Esprit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on retombe dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonner la foi, c'est abandonner le témoignage que Dieu nous a donné, parce que la foi a plusieurs sens. La foi qui sauve, qui vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Alors, on croit cette parole, mais la foi, c'est l'ensemble des vérités du christianisme, ce qui a été enseigné une fois pour toutes et qui n'a pas à évoluer. Les temps changent, le monde change, mais la foi qui a été donnée au saint, elle a été donnée pour tous les temps, une fois pour toutes. Je vous soulignerai encore un autre passage qui le dit. Mais revenons au 4 de la première à Timothée. L'Esprit dit expressément, donc c'est absolument clair, hein, personne ne devrait avoir des doutes là-dessus, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et voyez-vous, ces esprits séducteurs, vous les avez vus aussi, que ce soit au Québec ou en Suisse, dans ce qui s'est passé avec cette secte, hein, et le gourou. Car les esprits séducteurs à des doctrines de démons. Et ça a fini comment, cette histoire de secte? Par le meurtre. Hein. Donc, qui était là, derrière tout cela? C'est Satan. Ce qui caractérise Satan, Jésus l'a dit clairement dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, Satan est le père du mensonge et il est meurtrier dès le commencement. Alors, ce qui caractérise le diable, c'est le meurtre et le mensonge. Mais qu'est-ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui? Meurtre et mensonge. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Et vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est que ça sort d'où, ces fausses doctrines? De la religion dite chrétienne, qu'on a abandonnée. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ah, si on pouvait voir la conscience de ces gens qui trompent, comme ces évêques anglicans. Mais leur conscience, elle est de plus en plus endurcie. Car quand on résiste à la vérité, qu'est-ce qui arrive? Il y a un endurcissement. Prescrivant de ne pas se marier. Ça a commencé tôt, ça, hein, dans l'Église. On a prescrit de ne pas se marier. Et qu'on arrive à quoi? J'ai reçu par mon fils, mon petit-fils, des journaux de Suisse qui parlent de tous ces scandales Il est même un peu touché parce que il y a un journal de Lausanne qui a écrit Jean-Bernard, fils de curé. Comme il s'appelle Jean-Bernard, ses élèves à l'université lui ont apporté cela, puis ils l'ont même affiché. Puis comme ils savent que je suis pasteur, et alors ils ont dit, oh mais tu n'es pas pasteur, ton père, c'est un curé. Jean-Bernard, fils de curé. Mais pourquoi? Parce que l'évêque de Bâle, vous connaissez bien Bâle, en tout cas peut-être par les médicaments, qu'on aime bien encore au Canada, puis il y a des représentants de Bâle ici. Eh bien, l'évêque de Bâle a démissionné parce qu'il a un enfant. Et il l'a avoué. Et alors, cela a provoqué des remous. Et puis, un certain Jean Bernard qui a dit, mais moi aussi, je suis fils de curé. Mais lui, il ne l'a pas dit. Et il est toujours curé. Alors, ça fait un grand scandale. Mais vous voyez, on a prescrit de ne pas se marier. C'est parce que Dieu a voulu. Prescrivons, verset 3, de ne pas se marier, comme si le mariage était un péché. Non, pas le mariage qui est un péché. Ce qui est un péché, c'est la cohabitation. Sans vouloir le mariage. C'est le concubinage. Et puis aussi, on prescrivait de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Or maintenant, et c'est très frappant, il y a une espèce de religion alimentaire. Les gens ne veulent plus manger ceci, ne veulent plus manger cela, ils ne veulent que certains aliments. J'ai rien contre si vous voulez, mais pour certains, c'est devenu une religion et une propagande. On a dû, au manoir d'Youville, arrêter certaines personnes qui s'étaient introduites là et qui, à côté des réunions que nous faisions, essayaient de convertir les gens à manger ceci, à manger cela, à ne plus manger ceci, à ne plus manger cela. Comme si c'était ça qui allait les sauver. Alors que vous pouvez manger de tout, mais comment? Sobrement, avec sobriété. Parce que sans ça, alors, d'abord vous ne pourrez plus tellement voyager, vous deviendrez des gens impossibles. Moi, si je ne pouvais pas manger de tout, malgré tout ce que j'ai eu dans ma vie comme maladie, ben, j'aurais jamais pu aller au Laos, j'aurais jamais pu aller en Asie, où je devais manger des choses dont je n'étais pas habitué, puisque j'ai mangé du chien et du rat. Mais je ne suis pas mort. Et comme le disait l'attaché culturel de Paris, eh bien, je disais, mais vous savez, M. Racine, c'est la sauce qui arrange tout. Mais quand même, vous sentez les petits os. C'est la sauce qui arrange tout. Et quand vous voyez un chien tué, puis que vous voyez ces pauvres gens qui se précipitent pour se partager, hein, bien vous comprenez que l'évangile, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on est vraiment avec Jésus, on est dans la liberté. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Quand vous entrez dans une maison, dites, je suis végétarien. Alors, vous embêtez les gens. Je vous dites que vous venez pour leur apporter le message évangélique, la libération, puis vous leur imposez un certain régime. Soyez végétarien, c'est très bien. Mais voyez-vous, c'est pas divin. C'était divin en Éden, quand l'homme n'avait pas besoin de travailler très fort. Alors, Dieu avait donné le régime végétarien. Mais quand l'homme a été chassé d'Éden, qu'est-ce qui est arrivé? Il devait travailler à la sueur de son visage. Et qui est-ce qui a introduit le régime carné? C'est Dieu. au temps de Noé, au chapitre 9. Il a permis de manger de la viande. Mais il n'y a pas de dit, mange du cochon et du cochon. C'est pas ça. Et même dans pour les Israélites, eh bien, ce n'était pas permis pour bien des raisons et qui étaient tout à fait valables, surtout avec la grande chaleur et l'interdiction de manger du sang, hein, parce que c'est dans le sang que se trouve tous les microbes. Et quand on lit le Lévitique, par exemple, et si on fait une étude sur le Lévitique, c'est un livre qui n'est pour ainsi dire jamais lu, mais il y a des règles d'hygiène aussi qui sont tout à fait valables encore pour nos jours. Et puis le régime que notre divin fiancé avait établi, bien, il est merveilleux. Les vacances payées, ça se trouvait. L'année sabbatique, tout cela est dans l'Écriture. Alors, voyez verset 3. Prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Mais maintenant, on mange comme des bêtes. On n'a plus d'action de grâce. Et pourtant, j'ai quelquefois dit peut-être, ça m'arrive encore. En voyageant, on doit être au restaurant pour prendre un repas. Je m'incline avant de commencer de manger. Que ce soit à New York ou que ce soit ailleurs. Puis tout à coup, une main se pose sur mon épaule. Puis on me dit, monsieur, vous êtes un chrétien? Je dis, pourquoi? Mais j'ai vu que vous vous recueillez avant le repas. N'est-ce pas? On n'essaye pas de prêcher. Ou de se lever pour prier à haute voix dans un restaurant. On irriterait. Mais c'est pas ça. Soyez discret, soyez vous-même. Mais il y a de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Tout peut être pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ils n'ont pas détaché la ceinture. Ils ont toujours la ceinture autour de leurs reins et la ceinture, c'est la vérité, et c'est la parole. Car tout ce que Dieu a créé, c'est pas moi qui le dis, hein, tout ce que Dieu a créé, vous savez que c'est le Fils de Dieu, hein, qui a créé tout ça, Fils unique. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Mais si on ne le prend pas avec des actions de grâce, eh bien la nourriture n'est pas nécessairement bénie. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Est-ce que ça compte, ça, pour nous? Ça compte, hein? Et quand Jésus dit, quand vous entrez dans une maison, mangez et buvez de tout ce qu'on mettra devant vous. Ben, c'est quelque chose de merveilleux, cette liberté. Alors, on revient. Qu'est-ce qu'on avait lu pour commencer? Eh ben, hein? Après avoir autrefois, donc à travers l'Ancien Testament, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, et nous avons vu que toutes les manifestation de Dieu, c'était le Fils avant son incarnation. Il apparaissait sous une forme angélique qui est appelée l'ange de l'Éternel. Et même quand Ésaïe l'a vu dans le temple au chapitre 6, eh bien, ce n'est pas le Père en lui-même qui l'a vu, mais c'est le Seigneur. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint !» Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, on a une toute autre impression, on ne voit pas la terre pleine de sa gloire, mais en Éden, c'était ainsi, toute la terre était pleine de sa gloire, et c'est ça qui reste, et c'est ça qui reviendra. C'est ça qui reviendra, chers amis. Et ce qui me frappe, c'est de penser qu'aujourd'hui, on entend peut-être, tu entends peut-être davantage le cri des plantes, le cri des arbres, le cri de toute la création qui est en travail et qui soupire en attendant la délivrance. Il y a dans ce monde où les hommes ne prient pour ainsi dire plus, eh bien la création tout entière crie au Seigneur, parce que sans ça, elle sait qu'elle va périr. Hein. Mais il y a la prière de la création. Et Dieu connaît le cri de cette création. Et il va exaucer. La terre sera régénérée pour que le monde entier, sous le règne du Seigneur, parce qu'il faut qu'il règne, connaisse la bénédiction dans le règne qui doit durer 1000 ans. Voilà la prière de la création. Alors, nous devons nous joindre, nous aussi, à cette prière de la création. Mais est-ce que nous désirons la délivrance? Est-ce que nous sommes en communion avec tout ce que Dieu a créé? Parce que dans tout ce qu'il a créé, et nous l'avons vu, c'était bon. Je reviens à Hébreu. Donc, il a parler de plusieurs manières, par les pères et par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Vous retrouvez le Fils, hein, ce divin fiancé. Et maintenant, on apprend de plus en plus à le connaître, à savoir d'où il vient. Il vient du cœur de Dieu, du sein du Père. Il l'a établi héritier de toutes choses. Qui doit hériter? Le Fils. Et ce sera un royaume misérable qu'il aura? Non, puisqu'il doit hériter de toutes choses. C'est le royaume qu'il a créé. Par lequel aussi, il a créé le monde. Donc, vous avez là l'affirmation que le monde a été créé par le Fils. Et qui, étant le reflet de sa gloire, voyez, Dieu ne peut être vu que par reflet, mais en qui? En son Fils bien-aimé, qui étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Et c'est bien pour cela que, quand on disait à Jésus, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit », il disait, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas connu, celui qui m'a vu, a vu le Père. » Parce que l'image de Jésus, c'est l'image du Père. Et quand je pense que, en 1970, justement, à Châteauguay, quand Dieu me donnait de pouvoir être avec tous ces prêtres catholiques, on me disait, oh, vous savez, hein, vous êtes nouveau au Québec, mais faut pas parler au Québec de Dieu comme Père, parce qu'on a un trop mauvais souvenir de nos pères. C'était des théologiens qui disaient ça. Faut pas parler aux Québécois de Dieu comme un père. parce que, non, on a de trop mauvais souvenirs de nos pères. Quand on rentrait, la mère se plaignait et puis on était battu. Alors on faisait un complexe. Et je me souviens d'un des grands théologiens qui disait « Oh, j'étais traumatisé parce que dans notre cuisine, au-dessus de la fenêtre, il y avait l'œil de Dieu dans un triangle. » Puis on nous disait « Dieu te voit partout, Dieu te voit. Hein. » Et puis c'était toujours la correction si on faisait. Alors, on était, disait-il, culpabilisés. On a toujours été culpabilisés. Alors, évidemment, il y a eu cette réaction. Eh bien, nous voulons revenir au Seigneur. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés. Donc l'œuvre du salut, est-ce qu'elle est à faire ou est-ce qu'elle est faite? Quand il est venu, comme homme, c'était pour faire la purification des péchés des hommes. Alors il n'est pas venu comme un ange, il est venu en revêtant notre nature humaine, en revêtant un corps de chair. Mais c'était chez lui une chair sans péché, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Mais c'était pourtant un corps de chair. Et Jésus a été dans un corps de chair. Et il l'a dit que la chair, elle était faible. Mais dans son corps de chair, il a toujours dit non au péché. Pour quelle raison ? Parce qu'il voulait faire la volonté de son Père. Et la loi de son Père, elle n'était plus sur des tables de pierre, elle était au fond de ses entrailles. Et c'est ainsi qu'on a pu voir dans ce monde un homme vivre la loi de Dieu et la rendre grande et honorable. Il était sans péché. Après que l'homme, avec toutes ses prétentions, ait prétendu qu'il pouvait accomplir la loi. Je relis verset 3. « Qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, donc c'est fait, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, ces anges qu'il avait créés, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est la citation du psaume 1er. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au fils, ton trône, ô Dieu. Donc, est-ce que le Fils est Dieu? Oui. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il faudrait lire littéralement de tes compagnons. Et encore, ton Seigneur, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, elles seront changées. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, employés pour ceux qui doivent hériter du salut? Voilà un texte qui confirme tout ce qui a déjà été dit. Et je voudrais vous lire maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Pour que vous saisissiez déjà maintenant quelle a été l'œuvre du Seigneur ici-bas. Vous savez d'où il venait, du sein du Père. Je lirai puis verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse de langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il faut l'admettre. Prêcher la croix est une folie. Mais on voudrait rendre sage cette folie. C'est pourquoi on a un message qui, de plus en plus, devrait être accepté par tous. Mais c'est pas ça, non. Quand on prêche la croix, on sait qu'on prêche une folie. Et il ne faut pas essayer de rendre sage cette folie. Quand l'apôtre Paul a voulu faire un beau discours, à quel endroit? À Athènes, parce que il avait un public très intelligent, réputé intelligent, sage. Il n'y a pour ainsi dire pas eu de résultat. Alors il l'a compris. C'est pourquoi, en quittant Athènes, il est allé à Corinthe, qui était la ville la plus corrompue de l'époque, où il y avait des lupanards partout, la prostitution. Et il a dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a prêché cette folie. Vous avez ça au chapitre 2. Mais revenons au chapitre 1er. Car la prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Que la sagesse du monde est une folie, regardez, il n'arrive pas. L'ONU est pour ainsi dire en faillite. La sagesse du monde est une folie. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, qui leur permet d'aller jusque dans l'espace, hein, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver qui? Les croyants. Donc il n'est question que de croire. Par la folie de la prédication, les Juifs demandent des miracles. Et aujourd'hui, une foule de sectes dites chrétiennes, qu'est-ce qu'elles demandent ou qu'est-ce qu'elles offrent? Des miracles, il n'y a qu'à lire les journaux. Grande manifestation de guérison divine à tel endroit, venez, vous ne perdrez pas votre temps. Bon. Les Juifs, avec leur religion, demandaient des miracles. Pour croire, ils disaient toujours au Seigneur, quel miracle fais-tu? Et Jésus ne faisait que multiplier les miracles, hein, il en avait fait. Mais ça ne leur suffisait pas. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, parce que
nous dire qu'on peut être sauvé par le crucifié, qu'ils avaient la Bible, ils avaient la parole, qui disait « Maudit quiconque est pendu au bois ». C'est pourquoi quand on passait devant la croix, puis qu'on voyait ce Jésus qui avait guéri tant de personnes, qui était là, pantelant, couronné d'épines, couvert de sang, de la flagellation, et qui s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'il le délivre, son Dieu, puisqu'il l'aime. Vous rendez-vous compte? Et il aurait pu descendre de la croix. Qu'il descende de la croix. Et les brigands disaient pour commencer, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que notre péché n'aurait jamais été expié. Et il fallait l'expiation, les souffrances du Christ, pour que nous, un jour, et si vous ne l'avez pas, chers amis, je serais vraiment navré, et j'aimerais mieux que le Seigneur me reprenne, si vous n'avez pas la conscience que vos péchés ont été expiés, et que vous repartiez avec une conscience lourde, ce serait misérable. Et il vaudrait mieux que ce temps n'ait pas eu lieu. L'œuvre de Christ a été parfait. Vous regardez les œuvres de la création. Est-ce que vous croyez que l'œuvre de la rédemption est moins parfaite? Vous ne la comprenez peut-être pas, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais pourquoi les païens, eux, avaient déjà compris une chose? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils offraient sur leurs autels? C'est pas des fruits comme Caïn, c'était des offrandes, mais quelles offrandes? L'offrande qu'il croyait être la meilleure, c'était l'offrande de qui? D'un bébé. Hein? Parce qu'on disait, il n'a pas péché encore. Alors, on offrait sur les autels païens des sacrifices humains. Et qu'est-ce qu'on choisissait? Un nouveau-né, un bébé, hein? Parce qu'il n'avait pas encore péché. Et voilà ce qui était une abomination aux yeux du Seigneur. Mais ils avaient déjà compris qu'il fallait, au fond, une expiation. Mais ils étaient aveuglés par Satan. Ils n'avaient pas compris, c'est qu'il fallait un autre sang encore que le sang d'un bébé, il fallait le sang du Fils de Dieu. C'est le Fils unique qui allait donner sa vie. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, à cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour mes brebis. Alors, Jésus a donné sa vie pour vous. Vous devez en être conscient. C'est le Fils unique qui allait donner sa vie. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, à cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour mes brebis. Alors, Jésus a donné sa vie pour vous. Vous devez en être conscient. Est-ce qu'il est mort pour rien? Est-ce qu'il est mort pour que vous soyez toujours dans le doute au sujet de votre passé, de vos péchés? Il est mort pour que vous ayez la paix, si vous l'avez reçu, si vous l'acceptez, si vous reconnaissez qu'il est mort pour vous. C'est fait, et vous n'avez pas à revenir là-dessus. Et aux yeux de Dieu, c'est tellement fait, que s'il n'a pas répondu à son fils, nous, nous pouvons répondre. Pourquoi Dieu n'a pas répondu à son fils? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il payait pour nous. Pour que Dieu n'ait pas à nous réclamer quelque chose. Nous sommes sauvés totalement, gratuitement. C'est quelque chose. Alors, les Juifs, verset 22, demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ. Scandale pour les Juifs. Parce qu'ils étaient maudits quiconque est pendu au bois, et folie pour les païens. Mettre sa confiance en un crucifié, c'est une folie. Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu, elle est plus forte que les hommes. Vous croyez cela? Que de fois nous ne comprenons pas les pensées de Dieu, et puis après on se dit comme il avait raison. Considérez, frères, que parmi vous, qui avait été appelé, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Alors, si vous me dites, mais moi je suis faible, eh bien il vous a choisi. Ou bien, si vous dites, moi je n'ai pas d'intelligence, il vous a choisi. Verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde. Si vous dites, mais moi je suis trop vil, ben il vous a choisi. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Parce que quand on a compris vraiment l'œuvre de la rédemption, est-ce qu'on peut se glorifier de quelque chose? Il a tout créé, et puis il a tout racheté, lui-même. À quel prix? Au prix de sa vie. Alors, verset 30, et ce verset 30, il doit être dans vos cœurs, et le Saint-Esprit, son œuvre, sera de vous montrer justement que vous étiez misérables, et que vous l'êtes, quant à votre nature, c'est toujours misérable, mais ce n'est plus vous. C'est lui qui compte aux yeux de Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes en Jésus-Christ. Mais comment? Par qui? Par vos efforts? Pour essayer d'imiter Jésus-Christ, vous ne le pouvez pas. Il y a un tas de chrétiens qui essayent de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Puis, ça va un moment, puis après, ils ne peuvent plus supporter. Ça ne va plus. Mais ce n'est pas un Christ extérieur que nous devons essayer d'imiter. Je me souviens, ma belle-mère, avant sa conversion, c'était une très grande dame, ma première belle-mère, elle me disait, mais tu sais, Gaston, j'ai de l'admiration pour Jésus-Christ. Si je le voyais, je me mettrais à genoux devant lui. Mais c'est un Christ extérieur. Alors ça ne l'empêchait pas d'être la grande mondaine. Mais elle ne pouvait pas croire qu'il était le Fils de Dieu. Alors elle n'était pas sauvée, hein. Puisqu'elle niait la divinité de Jésus-Christ. Oh, mais c'était un grand homme. Et alors il fallait peut-être lui ressembler, avoir de la morale. Mais ce n'est pas la morale qui nous sauve. Alors mes amis, vous voyez, nous revenons à la parole. Et vous ne pourrez pas dire que c'est moi qui vous ai enseigné. Vous pourrez dire, on a lu dans l'Écriture. Et on n'avait pas à commenter ce texte, comme on n'a pas eu à commenter hier le chapitre 2 de la deuxième de Pierre, il n'y a pas à le commenter. C'est l'actualité. Car c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Donc, vous êtes en Jésus-Christ. Alors, si vous êtes en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu voit quand il vous regarde? Il voit Jésus-Christ. Mais quand il a regardé à la croix, qu'est-ce qu'il a vu, Dieu? Vous. Et c'est pour ça qu'il a détourné la face. Parce que Jésus-Christ nous représentait. Il nous a aimés au point, et on va en parler au sujet de Gethsémané, il nous a aimés au point de prendre sur lui tous nos péchés, quels qu'ils soient, toutes nos crapuleries, toutes nos mauvaises pensées, tout ce qui est infect en nous, il a pris tout cela comme s'il les avait commis. Et alors, là, Dieu a détourné sa face. Parce que Dieu est saint. Et c'est à la croix que vous voyez la sainteté de Dieu. L'homme qui n'avait jamais péché, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, quand il a donné sa vie, comme le grain de blé, hein, il donnait sa vie pour nous. Dieu a accepté son sacrifice, mais pour bien montrer qu'il a été satisfait, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de le faire descendre de la croix, il l'a laissé mettre dans la tombe, et puis, au matin de Pâques, il y a eu l'intervention. Est-ce que le Seigneur est resté dans la tombe? Non, il est resté. Alors, il est vivant, il est ressuscité, vous croyez à sa résurrection, parce que si vous ne croyez pas à sa résurrection, alors il n'y a pas de résurrection pour vous non plus. Le Christ est revenu de la mort. Quand on nous dit, personne ne peut savoir si on revient, lui est revenu de la mort, et c'est sur sa résurrection qui a eu lieu sur cette terre que repose vraiment la certitude de notre résurrection. Quand mon corps retournera à la poussière, si le Seigneur n'est pas venu avant, mais j'attends pas la mort, j'attends le Seigneur, eh bien, je sais que je m'endors dans la foi en la résurrection. Mon corps aussi ressuscitera. Je reviens au verset 30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, vous voyez, de par ce Père dans le sein duquel il était et qu'il a retrouvé, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Quoi? Vous qui étiez sans sagesse, qui est votre sagesse? Jésus. Justice, qui est votre justice? Alors que nous avons commis toutes les injustices possibles. Il est notre justice. N'essayez pas de chercher en vous une justice, parce que la meilleure de vos justices, nous dit l'Écriture, elle est comme quoi? Comme un vêtement soulié. Si vous êtes encore dans la recherche de vos justices pour vous rassurer, ben vous êtes malheureux. Parce que la meilleure de nos justices, c'est comme un vêtement souillé, Ésaïe chapitre 64. Eh bien, c'est lui qui est notre... Et puis qui est quoi? Notre sanctification. Notre sainteté, elle est déjà faite. C'est lui qui l'est. Il est ma sainteté. Et tant que je regarde à lui, je sais que je marche dans la sainteté. Et il est notre rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, ce que Jésus a fait à la croix est tellement parfait que ça vous est compté à vous. Quel est-ce qu'il est, vous? Est-ce qu'il m'a monté derrière lui? C'est vrai, oui, alors on me semble. Il est votre justice, votre sainteté, votre justification. Et étant monté en haut, là d'où il était descendu, il nous représente devant Dieu, et je le souligne, Dieu ne nous voit que dans les perfections de son Fils. Alors pensez au Fils, pensez que votre portrait, il est devant Dieu, et que Dieu est parfaitement satisfait. Il vous voit dans les perfections de son Fils. Mais pour cela, il faut l'avoir accepté. Il ne faut pas avoir accepté une doctrine, mais une personne. Jésus habite en vous par le Saint-Esprit. Et alors, on va voir en Jésus devenu homme, puisque la parole est devenue chair, en lisant le chapitre 2 des Philippiens, vous allez voir comment le Fils unique et éternel de Dieu si quelqu'un est trop au soleil, moi je peux encore me retirer, hein. Et puis vous pouvez venir ici. Je ne vais pas être la cause de votre...
Non, mais j'ai une petite pommade du risque à rien, mais j'ai franchi un grand risque.
Si tu es une infirmière. Hein.
Oui. Avec moi, il est temps qu'il se casse avec les autres.
On va l'exhorter.
Non, ça va bien.
Je la connais. Vous voyez, chapitre 2 de l'épître aux Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, est-ce que vous pensez qu'il y a une consolation en Christ? Quand on revient à la simplicité du Christ, quand on voit le Christ avec un œil simple, comme il l'est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, hein, pour comprendre ce que c'est que cette simplicité, je vous ai déjà cité le passage dans une parole de Jésus qui nous demande d'avoir un œil simple. Verset 22 du chapitre 6. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ou si ton œil est simple, je dis littéralement, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres? Alors, si on n'a plus cet œil simple qui croit ce qu'il voit en Christ, bien, on est complètement dans les ténèbres. Bien qu'on ait cet œil simple, et puis nous verrons que ces vérités, merci beaucoup, nous pénétreront et nous ferons du bien dans tout notre être. Voyez-vous, si je suis encore en vie, je peux témoigner que la parole m'a fait vivre. Qu'il y a une puissance dans la parole et que même physiquement, j'ai été souvent renouvelé au cours de ma vie par une seule parole de l'Écriture qui a agi plus puissamment que tous les remèdes que j'aurais pu prendre. C'est bien ce que le Seigneur nous a dit dans le livre des Proverbes, par exemple. Verset 10 du chapitre 4. Écoute, mon fils, reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras pas. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Puis le verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car c'est là ta vie. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé, c'est ce verset que je cherchais, de tout leur corps. C'est la santé de tout leur corps. Alors, revenons à Philippiens. Si donc il y a quelque consolation dans le Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite
ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pas ce que Marie et Aaron ont mis en pratique. Ils n'admettaient pas que Moïse soit au-dessus d'eux. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au fond, quand on se donne au Seigneur, on renonce à soi et on change de centre. Avant, j'avais pour centre moi-même, mais quand je suis au Seigneur, mon centre, c'est quoi? C'est Jésus. Et les autres, alors, deviennent aussi devant moi. Et je peux les aimer. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voyez-vous, quand on fréquente ce fiancé, quand on est fiancé à Christ, on commence d'avoir en soi les sentiments qui sont en lui. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on commence à les avoir. C'est pas notre nature qui nous les a donnés, hein. Mais c'est vraiment le Seigneur. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, c'est-à-dire étant de condition divine, il était Dieu. Eh bien, existant donc dans l'éternité en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il était égal de Dieu. Tandis que justement, Ève, elle a voulu être égale à Dieu en suivant Satan qui disait, si tu désobéis, si tu manges de ce fruit défendu, tu seras semblable à Dieu. Mais dans le plan de Dieu, c'est bien ce qu'il voulait faire, Dieu. Rendre sa créature semblable à lui, mais pas par la désobéissance, pas par le chemin de la connaissance, mais dans la communion avec lui. Lequel étant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, il était Dieu. Mais il a fait le contraire, il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur. C'est ce que nous allons voir. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un saint homme. Il est né comme un homme, mais il est né dans une crèche. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il est allé jusqu'au bout. Alors on va considérer cette vie de notre fiancé, comment nous avons été aimés par cet être auquel nous donnons notre vie. Il est digne d'avoir notre vie parce qu'il nous a tellement aimés. Il s'est humilié lui-même devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors voyez-vous, mes amis, vous connaissez maintenant l'histoire du Seigneur dans son incarnation, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Quand il naît dans ce monde, il n'y a pas de place pour lui, et il naît dans une crèche. Mais qu'est-ce qui vous prouve, qu'est-ce qui a montré que ce petit enfant était Dieu, à ce moment-là, au moment de la naissance, qu'est-ce qu'il y a eu comme intervention? Les anges. Les anges étaient là, et ont acclamé la naissance du Sauveur. Mais ce que ça devait être pour les anges qui avaient été créés par lui, de le voir comme un petit enfant dans la crèche. On ne l'avait pas même reçu dans l'hôtellerie. Mais dans les champs, eh bien, les anges annoncent la naissance de Jésus aux pauvres de ce monde, les bergers. Et puis, il y a une autre chose qui montre que c'était vraiment le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est venu après les bergers? Il y a eu l'étoile qui a conduit qui? Les mages des gens riches. Donc le Seigneur est aussi pour les gens riches. Il a été pour les pauvres d'abord, qui n'auraient jamais pu voir Jésus et l'adorer s'il était né dans un palais. Il est né dans une crèche. On n'a pas besoin de se changer. Il s'est rendu le plus simple possible. Revenez à cette simplicité du Christ. Mais souvenez-vous qu'à la crèche, il y a eu les anges du ciel qui ont célébré sa naissance. Maintenant, au désert, où il est allé pour être tenté par le diable et où il a vaincu toutes les tentations à notre place pour que nous aussi, nous sachions comment vaincre, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus pour le servir. Puis maintenant, à Gethsémané, quand vous le voyez dans l'angoisse du combat, que ses disciples dorment alors qu'il leur avait demandé de prier avec eux, de prier avec lui, qu'est-ce qui est venu pour le soutenir? À Gethsémané, quand sa sueur était devenue semblable à des grumeaux de sang qui coulaient de son front sur la terre, un ange apparaît pour le soutenir. L'ange, les anges sont à la crèche, dans les champs de Bethléem, les anges sont dans le désert pour le Seigneur, et puis la suite. À la crucifixion, qu'est-ce qui s'est passé? Qui montre que c'est le Fils de Dieu? Le voile s'est déchiré, mais tout à coup à midi, la noirceur, la terre a tremblé, les rochers se sont fendus. C'est toute la création qui réagit à la mort du Créateur. Et nous, peut-être dans ce temps, nous aurions un cœur plus dur que les rochers de Golgotha. Nous ne tremblerions pas alors que la terre a tremblé. Il y a eu une manifestation divine à un tel point que le centenier qui présidait à l'exécution de Jésus, s'est écrié, celui-là est le Fils de Dieu. Et nous ne le croirions pas. Votre fiancé, c'est le Fils de Dieu. Dans sa mort, c'est le Fils de Dieu. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau préconnu dès avant la fondation du monde, comme nous l'avons vu. Hein. Je reviens sur ces choses pour que elles soient vraiment dans votre cœur, que ce soit un enseignement qui vous reste dans le sein du Père. Tout avait été prévu pour que vous soyez rachetés. Mais quand vous dites, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu faire autrement? Mais vous connaissez l'expression de Clavel, de Maurice Clavel. Mais Dieu est Dieu, nom de Dieu. Laissez Dieu être Dieu, il fait ce qu'il veut. Et nous, pauvres, misérables, nous voudrions contester avec Dieu. Qui es-tu ? Toi qui contestes avec Dieu, même Job, un très saint homme, qui a posé des questions à Dieu, qui voulait que Dieu lui réponde, quand Dieu a bien voulu sortir de la tempête pour répondre à Job, c'est lui qui a posé des questions. Il a répondu à aucune de ces questions. Il a dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? N'est-ce pas ? Courbons-nous. Mais la bonté de Dieu avait prévu de donner à Job quoi ? Le double de tout ce qu'il avait. C'est toujours ainsi. Faites confiance à Dieu. Vous passez par des épreuves. Eh bien, puissions-nous nous dire, ben, c'est peut-être nécessaire, parce que le Seigneur m'aime. Je n'ai jamais éprouvé autant l'amour de Dieu que dans les moments difficiles. Alors il se montre dans toute sa puissance, parce qu'il veut faire grandir notre foi. Nous sommes fiancés au Christ. Alors ayons un œil saint. Et croyons que cette œuvre de la croix nous rachète complètement. Vous direz, mais pourquoi ça a été si long ? Parce que l'homme, quand il a eu péché en Éden, il n'a pas du tout pensé que c'était fini, qu'il ne pourrait rien faire. Il a pensé qu'il pouvait se racheter. D'abord Caïn, avec son travail, en apportant les fruits de la terre. Puis qu'est-ce qu'il est devenu ? Un meurtrier, tout simplement. Mais ensuite, quand Dieu a appelé Abraham et qu'il a fait sortir du sein d'Abraham un peuple pour témoigner de ce qu'il était et qu'il lui a donné la loi, qu'est-ce que le peuple a dit dans l'Exode ? Au milieu de toutes les nations devenues païennes, alors qu'il avait eu la connaissance de Dieu, au milieu de toutes les nations païennes, Abraham est choisi, sort du paganisme. Et puis, Moïse est suscité. Et quand Moïse conduit Israël au Sinaï, Dieu veut bien parler. Et quand il parle, le peuple dit, nous ferons tout ce que tu nous as dit. C'est la prétention qu'il a eue. Et ils ont entendu la voix de Dieu prononcer les 10 paroles. Et ils ont dit, nous ferons tout ce que tu as dit. Parce que Dieu avait dit, faites les choses et vous vivrez. Mais est-ce qu'on peut les faire ? On a la prétention de pouvoir faire les 10 commandements. Mais est-ce que c'est vrai ? Tout le peuple d'Israël, avec les 10 commandements, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il s'est trouvé un homme qui avait accompli les 10 commandements, qui avait rendu la loi grande et honorable, qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Ils l'ont arrêté et ils l'ont accusé, et comme il n'avait pas le droit de mort, ils l'ont livré aux païens, aux Romains, qu'ils détestaient, mais ils l'ont livré aux païens pour qu'ils soient exécutés. De sorte que juifs et païens ont montré la même méchanceté. Quand il y a eu un être sur la terre qui a vraiment manifesté les pensées de Dieu et ce qui était agréable à Dieu, on n'en a pas voulu. Jésus était un gêneur. Et encore aujourd'hui, un vrai chrétien authentique, c'est un gêneur. Peut-être juste dans nos familles. Bien, mes amis, acceptons toute souffrance. Parce que, voyez-vous, la chair, c'est la chair. Et le Seigneur l'a dit, après la chute, quand il a vu ce que l'homme devenait, lorsque les hommes, chapitre 6 de la Genèse, eurent commencé à multiplier sur la terre, l'Éternel dit, mon esprit, verset 3, ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, il n'est plus que chair. Et il fallait que la chair manifeste ce qu'elle était. Alors Jésus a pris notre chair, mais quelle a été sa lutte, puisqu'il était conçu sans péché. Mais il avait quand même la chair, mais la chair dans sa faiblesse. Et vous savez, Jésus n'a pas recherché la souffrance, mais quand elle est venue, il l'a acceptée. Jésus n'a pas demandé d'être battu. Jésus n'a pas demandé d'être rejeté. Mais quand ça est venu, il a accepté d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il savait quel était le plan de Dieu. Et c'est le dernier texte que je vous cite. Romains, chapitre 8, où vous verrez ce plan de Dieu. Verset 29. Ceux que Dieu a connus d'avance, puisqu'il nous a connus d'avance, puisque nous étions prédestinés dès avant la fondation du monde, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût premier-né en plusieurs frères. Acceptez-vous d'être frère du Seigneur? Et d'être fiancé à lui, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Si l'homme n'avait pas péché, il n'aurait pas eu besoin de l'appeler. Mais il nous avait prédestinés à la gloire éternelle. Mais comme l'homme s'est éloigné, Dieu a dû l'appeler. Il a appelé Adam. Adam, où es-tu? Et ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi justifiés. Mais pour que l'homme soit justifié, il a fallu qu'il aille à la croix. Et c'est lui qui a payé pour nous. Et c'est comme ça que nous sommes justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme si c'était déjà fait. Ce qu'il y a devant vous, c'est la gloire. Alors, c'est tonique. Dieu notre Père, nous te remercions de ce que tu nous as permis de nous ressourcer dans ta parole. Et nous voulons te demander qu'aujourd'hui, ton esprit étant notre mémoire, tu nous rappelles cet ensemble de vérités et que nous puissions être préparés pour ce soir, afin que tu puisses aller plus loin et nous donner ce que nous attendons de toi, cette plénitude de vie, d'amour, de paix, de joie en Jésus-Christ. Protège ce temps où tu fais ton œuvre, chez les enfants, comme chez les parents. Fais ton œuvre en nous et que nous puissions voir ta gloire en Jésus.